Le projet de loi sur la fin de vie est actuellement débattu à l'Assemblée nationale. Ce matin, Isabelle Duché, vous en parlez avec votre invité.
Oui, enfin, nous y sommes. Les débats parlementaires sur le projet de loi sur la fin de vie ont débuté lundi 27 mai. Les députés travaillent en ce moment même sur un texte élargi la semaine dernière par la commission spéciale de l'Assemblée nationale. Quel changement entraînera cette loi? Pour nous éclairer sur ce sujet, je reçois ce matin Bettina Couder, co-responsable du comité de réflexion et d'éthique à l'Oncopole de Toulouse et enseignante en faculté de pharmacie en éthique. Justement, bonjour madame.
Bonjour madame.
Avec une soixantaine de pharmaciens et de juristes, vous avez publié le 13 mai dernier dans le Figaro une tribune intitulée « Le projet de loi sur la fin de vie menace la liberté de conscience des pharmaciens ». Et on voit en ce moment tourner une pétition en faveur de cette défense, de cette instauration de la liberté des pharmaciens. Quelle est cette menace, Bettina Couder?
Alors en fait, dans la loi actuelle, il n'y a pas prévu que les pharmaciens puissent se prévoir d'une objection de conscience pour la délivrance des substances létales qui seraient utilisées pour une aide médicale à mourir ou une euthanasie. Et on serait le seul pays où les pharmaciens n'auraient pas la possibilité, pour raison de conscience, de s'opposer à la délivrance de telles substances, enfin du moins de la déléguer, puisqu'ils ne veulent pas le faire eux-mêmes. Je rappelle que les autres pays qui ont légalisé l'euthanasie, comme la Belgique, le Canada, les Pays-Bas, le Luxembourg ou l'Espagne, eux, ils ont gardé la possibilité pour les pharmaciens de faire appel à cette objection de conscience. Et en France, dans la loi, ce n'est pas prévu. Et 85% des pharmaciens consultés par leur ordre ont voté en faveur de la garantie d'une clause de conscience selon laquelle un pharmacien pourrait refuser d'effectuer un acte pharmaceutique susceptible d'attenter la vie humaine. Il faut savoir qu'actuellement, dans la loi actuelle, un pharmacien qui délivre une substance létale est passible de 30 ans de réclusion et d'une énorme amende. Donc comment c'est possible qu'on va changer la loi aussi rapidement en disant que maintenant on peut délivrer une substance létale en toute tranquillité?
Oui, parce que si vous participez au geste, en fait, vous êtes complice.
Voilà, donc on peut imaginer que des pharmaciens ne veulent pas participer au geste et donc il faut leur accorder cette clause de conscience où ils peuvent dire mais moi je le fais pas, on va trouver un autre pharmacien qui va accepter.
Mm-hmm. Et ça pourrait être mis dans ce projet de loi fin de vie?
Bien sûr, puisque le projet de loi est en cours de discussion, ça pourrait tout à fait être ajouté dans le projet de loi. Il rajoute des choses assez surprenantes, puisque là, actuellement, ils veulent rajouter un amendement où serait passible de 15 000 euros d'amende et d'un emprisonnement toute personne qui essaierait de dissuader quelqu'un de faire appel à une euthanasie, enfin de demander une euthanasie ou une aide médicale à mourir.
Donc ça, c'est un délit d'entrave?
C'est un délit d'entrave, exactement. Donc comment on peut mettre quelque chose de ce style dans un projet de loi et refuser une clause de conscience à ceux qui ne veulent pas participer à ce geste?
Il y a aussi la Société française de pédiatrie, le Conseil national professionnel des aides-soignants, l'Union française pour une médecine libre. Ce sont les médecins généralistes qui ont appelé, toujours dans une tribune au Figaro, à sauver les valeurs du soin. Comment les soignants vivent-ils ce débat, Bettina Couder?
Ils le vivent assez mal. Alors, bien entendu, rien n'est blanc, rien n'est noir. Et il y a des soignants qui sont tout à fait favorables à une adaptation de la loi et à la mise en place de la possibilité de pratiquer une euthanasie ou du moins une aide médicale à mourir. Mais il y a quand même une grande majorité de soignants qui sont opposés à cette évolution de la loi, parce que nous avons eu une loi en 2016 qui s'appelle la loi Claeys-Leonetti, qui est venue renforcer la loi de 2005 qui s'appelait la loi Leonetti, qui a quand même travaillé sur la fin de vie. Et en France, nous avons la chance d'être dans un système qui est extrêmement solidaire. Donc on essaye de faire tout pour accompagner les personnes le mieux que l'on peut tout au long de leur parcours de soins et bien sûr jusqu'à la fin de vie. Donc ce système solidaire où on va prendre soin du plus vulnérable le plus possible, ben les soignants y sont très attachés. Alors les soignants, les patients, eux, c'est sûr, ils craignent, lorsqu'on interroge les patients sur leur fin de vie, et si on interroge les gens dans la rue en disant qu'est-ce que vous craignez le plus pour votre fin de vie, les patients craignent ce qu'on appelle l'obstination déraisonnable, qui autrefois s'appelait l'acharnement thérapeutique. Mais acharnement, c'est un peu violent.
Mais ça, c'est réglé.
Mais bien sûr, ça c'est une question qui est réglée. Mais même si c'est une question qui est réglée, les patients le craignent toujours. Et lorsqu'on regarde, il y a très très peu de gens qui rédigent des directives anticipées. Mais si on regarde qu'est-ce qu'ils marquent dans leurs directives, ils marquent pas d'obstination déraisonnable. Et on leur explique, mais attendez, c'est hors la loi, mais ils expliquent que ma tante, mon grand-père, etc., lui, il a souffert, c'est affreux. Mais c'est vrai qu'en France, actuellement, bien sûr, on a une loi qui empêche cette obstination déraisonnable, ça c'est clair et net. Mais bien sûr, il faut développer les soins palliatifs parce que il y a une inégalité au sein du territoire, à savoir qu'il y a des villes où les soins palliatifs sont développés et des endroits où ils ne le sont pas.
Oui,
le message que j'essaye de faire passer, c'est que les soignants sont vraiment attachés à ce système de solidarité où on va tout faire pour la personne, pour l'amener au mieux jusqu'à la fin de sa vie et qu'il ne souffre pas à la fois physiquement, bien entendu, et on a les moyens pour qu'il ne souffre pas, physiquement, moralement, donc on a bien sûr aussi tous les moyens, et aussi socialement, parce que quelqu'un qui est malade, il va se faire du souci pour sa famille, est-ce que je suis un poids, est-ce qu'il doit venir me voir souvent. Donc on essaie de s'intéresser aux trois dimensions pour amener les gens jusqu'à la fin dans les meilleures conditions possibles. Mmh. Et c'est ça, mourir digne, c'est mourir entouré sans souffrir.
La Cour des comptes, puisque vous parliez de cet accès aux soins palliatifs, a calculé qu'un Français sur deux a accès aux soins palliatifs, alors que la loi de 1999 donnait accès à tous à ces soins palliatifs. Et puisque vous parliez de ces directives anticipées, Bettina Couder, il y a un autre amendement de ce texte de loi qui permet aux patients d'indiquer sa volonté d'avoir recours à une aide à mourir dans le cadre des directives anticipées. Quels sont les risques d'une telle disposition ?
Oh, ils sont importants. Alors, j'ai la chance d'encadrer une étudiante, Roxane Delpech, qui fait un doctorat, enfin une thèse d'université sur les directives anticipées. Donc, elle a déjà bien avancé dans son travail. Donc, les directives anticipées, inutile de vous dire que malgré la publicité donc, que l'on en fait, il y a un très, très faible pourcentage de personnes qui les rédigent. Du fait qu'on n'arrive pas à se projeter. Comment voulez-vous savoir quand vous êtes bien en bonne santé ce que vous allez accepter ou pas accepter quand vous serez en mauvaise santé. Et c'est sûr que lorsqu'on interroge les gens dans la rue, ils disent « Ah non, je ne veux pas être diminué, je ne veux pas être un poids pour ma famille, je ne veux pas souffrir. » Donc ça, ce sont des choses qu'ils seraient capables d'écrire et ils seraient capables de dire « Je désirerais qu'on mette une euthanasie si jamais ceci, si jamais cela. » Mais dans les faits, quand les gens sont au pied du mur et qu'ils souffrent, donc en France, on a la loi Claeys-Leonetti qui nous permet de leur proposer une sédation profonde et continue si jamais ils souffraient trop. Et j'ai vu d'innombrables cas où quand on dit à la personne, voilà, vous souffrez énormément, est-ce que vous voulez qu'on vous sédate ? Et les gens répondent, oh non, non, tant que je tiens, on peut attendre, parce qu'ils savent très bien qu'une sédation est peut-être définitive. Donc je pense qu'on ne peut pas prendre une décision lorsqu'on est en bonne santé et on se dit, je n'accepterai jamais ci, jamais ça, alors qu'en fait, quand on y est, ben finalement, on arrive à se dire que sa qualité de vie n'est peut-être pas si horrible. Et si on est entouré, aimé, aidé, et surtout si on ne souffre pas, ben on accepte une vie peut-être moins active, mais une vie quand même.
Oui. L'avant-projet de loi réservait l'aide à mourir aux patients dont le pronostic vital était engagé à court ou moyen terme. Et cette condition a été remplacée par la notion d'affection grave et incurable en phase avancée ou terminale. Quelles sont les conséquences de ce changement de terme ?
En fait, c'est pour mettre une loi extrêmement permissive. Parce que la sédation profonde et continue, celle qui est dans la loi actuelle, c'est lorsque le pronostic vital est à court terme. Mais qu'est-ce que c'est une fin de vie ? Si vous interrogez les gens dans la rue, ils vont vous dire la fin de vie, c'est... Il y a des gens qui vont dire « c'est mon dernier souffle », et puis d'autres ils vont vous dire « c'est quand je ne peux plus aller boire un coup avec mes amis » ou « c'est quand j'ai un diagnostic d'une récidive d'un cancer ». Donc c'est quoi la fin de vie ? Et déjà, le court terme, on n'arrive pas à le définir. Aucun médecin n'est capable de dire si la personne va mourir dans une semaine ou un mois. Et alors, donc, là avec la nouvelle dénomination, ça devient quelque chose d'extrêmement flou, donc extrêmement permissif.
Oui, parce que ça pourrait englober des maladies chroniques comme le diabète ou des atteintes en cancer avancé, ouais, c'est ça.
Un cancer, ouais. Finalement, un cancer qui récidive, on va rentrer dans une maladie qui est chronique. Bien sûr, si le patient est bien traité, il va vivre de nombreuses années et tout à fait bien, mais on sait qu'il y a un risque quand même. Donc, est-ce que c'est ça, la fin de vie? Mais non, bien sûr que non. Tant qu'on peut les traiter, tant qu'ils ne souffrent pas, tant qu'ils veulent vivre, c'est pas la fin de vie.
C'est pas la fin de vie. L'oncologue Jérôme Barrière, qui est membre du conseil scientifique de la Société française du cancer, a alerté. Il disait des patients atteints d'un cancer qui étaient autrefois considérés comme condamnés sont encore en vie à plus de 5 ans de suivi grâce à l'immunothérapie. Et en cas d'arrêt des traitements, les médecins peuvent se prononcer. Mais comment faire en cours de traitement? Voilà cette question.
Ben oui. La question, elle va être ici. Donc, ce qu'on voit comme dérive au Canada, c'est qu'on a vu des comptes rendus médicaux de médecins canadiens. Je n'ai rien contre les médecins canadiens, hein, bien sûr, où ils marquent, ben voilà, pour monsieur un tel, vu en consultation ce jour, je propose soit la ligne de chimiothérapie XY, soit une deuxième ligne, soit une euthanasie. Donc, comment peut-on mettre ça dans un compte rendu? Donc, voilà qu'on va envisager une euthanasie alors qu'il reste quelque chose à faire et que le patient doit avoir le choix des traitements.
La loi de fraternité qui concilie l'autonomie de l'individu et la solidarité de la nation à laquelle appelait le président de la République de ses voeux est-elle si égalitaire qu'il le souhaitait aujourd'hui dans ce texte?
Non, dans ce texte, il n'est pas du tout égalitaire. En fait, c'est une question qui a fait une... Je vais vous faire une réponse qui est un peu personnelle. Je pense que favoriser l'euthanasie est complètement inégalitaire, parce que qui c'est qui va demander une euthanasie? Les gens qui sont seuls, les gens qui souffrent, les gens qui ont peur d'être un poids pour leur famille. Et donc, ce sont les plus vulnérables qui vont être le plus amenés à demander une euthanasie, alors que les gens qui sont peut-être un peu plus favorisés, avec un environnement plus riche ou plus amical ou moins difficile, ben eux, ils ne vont pas le demander, puisqu'ils ont les moyens qu'on les fasse pas, qu'ils ne souffrent pas et qu'ils soient entourés, le kiné, les visites et tout ce que vous voulez. En fait, on demande une euthanasie quand on n'a plus de sens à sa vie, et quand on souffre et quand on n'a plus de sens à sa vie. Donc, ce sont les plus vulnérables qui le demanderont. Donc, pour moi, c'est parfaitement inégalitaire.
Donc là, il n'y a pas de loi de fraternité.
Non, pas du tout.
Emmanuel Hirsch, qui est professeur d'éthique médicale, disait « Le dernier acte d'un soin est un soin, soigné par la mort n'en est pas un ».
Exactement. Eh ben, je suis tout à fait d'accord avec lui.
Ce sera le mot de la fin. Je voudrais quand même, puisque vous avez beaucoup parlé du cas d'Ada, Bettina Acoudère, préciser qu'en l'état actuel du texte, qui est donc plus permissif que celui du Canada, puisque le geste létal pourrait être accompli par un proche, oui. Claire Fourcade, présidente de la Société des soins palliatifs, a évalué à 45 000 euthanasies par an, c'est-à-dire une toutes les 10 minutes, 365 jours par an, jour et nuit.
C'est horrible.
C'est horrible, c'est vertigineux.
Mais au Canada, dans l'État du Québec, je crois que 10% des décès se font par euthanasie à ce jour.
Voilà, donc nous allons suivre évidemment ces débats avec attention jusqu'au vote de la loi prévu le 11 juin. Merci Bettina Coderre de nous avoir éclairé ce matin.
Merci.